journal. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous. Un prix que les États n'aiment pas recevoir, le Fossil of the Week, bonnet d'âne des négociations de la COP26 à Glasgow, victoire du Brésil. Confidence sur canapé, ambition intime, émission d'M6 ce soir, 5 femmes dont 3 candidates à la présidentielle, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Rachida Dati et Marlène Schiappa. Et puis quand Israël s'intéresse, du moins la presse israélienne s'intéresse au phénomène Zemmour, Frédéric Mettezo aura lu la presse pour nous.
Revue de presse dans un instant. Les invités de la matinale, dans 20 minutes, Karine Bécard, vous recevrez.
Le chanteur d'opéra Ludovic Tézier dans Rigoletto de Verdi en ce moment à Bastille.
Et puis à 8h20, on va s'intéresser à l'ascenseur social avec deux invités, la sociologue Annabelle Alouche et le journaliste Sébastien Le Foll. Au lendemain d'une journée de manifestation un peu partout dans le monde pour le climat, et c'est aujourd'hui relâche à la COP26.
Relâche avant d'entrer dans le dur des discussions pour un accord à la fin de la semaine. Focus ce matin sur le Brésil. Brésil, bonnet d'âne de ces négociations. Le pays fait partie des 100 pays qui ont annoncé qu'ils allaient enrayer la déforestation en 2030, alors que son président Bolsonaro encourage l'exploitation de l'Amazonie depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Julie Pietri.
C'est un prix que les États n'aiment pas recevoir. Le Fossil of the Week récompense le mauvais élève des négociations. Et cette semaine, victoire du Brésil pour sa manière horrible et inacceptable, dit le réseau Action Climat, de traiter ces peuples indigènes, des peuples qui se sont exprimés dans les rues de Glasgow ces deux derniers jours. À la tribune, cette jeune militante dénonce la politique génocidaire du pouvoir brésilien. Le peuple Munduruku doit boire de l'eau contaminée au mercure parce que des grandes entreprises polluent nos rivières. Nous défendons notre territoire par notre vie. Les peuples indigènes meurent. Durant cette COP, le fossé entre ceux qui semblent encore épargnés par les pollutions et le changement climatique et ceux qui les subissent de plein fouet et restent pourtant peu écoutés saute aux yeux. La militante brésilienne Alessandra Corap se définit comme une guerrière de l'Amazonie. Il y a peu de temps, tous les gouverneurs de l'Amazonie brésilienne ont signé un accord, décidé d'une politique, mais sans les peuples indigènes et leur savoir ancestral. Sous Jair Bolsonaro, l'Amazonie a été amputée de 10 000 km² de forêts par an.
Julie Pietri. En France, près de 30 000 personnes ont manifesté hier contre le pass sanitaire, 17e week-end de mobilisation, dans un contexte de reprise épidémique, 9 600 nouveaux cas pour la seule journée de ce samedi. Et puis ce pass sanitaire, il ne sera obligatoire pour accéder aux stations de ski que si le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Le Premier ministre Castex est allé l'expliquer hier en Haute-Savoie, alors dont pour l'instant les skieurs devront juste porter le masque au remontée mécanique. Un record de contamination au Covid-19, c'est en Russie, 41 335 contaminations en 24 heures. La semaine dernière, rappelons-le, elle était chômée à Moscou. Le dispositif était censé ralentir l'épidémie, mais le dispositif n'a pas été très concluant, car en réalité, rien n'obligeait les salariés à rester chez eux et aucune compensation financière n'était accordée aux entreprises. CQFD, les moscovites ne se sont pas réellement confinés. C'est un revers pour Joe Biden. Une cour d'appel fédérale suspend la mesure du président américain. Celle-ci oblige des dizaines de millions de salariés à être vaccinés d'ici le 4 janvier, sous peine de se soumettre à des tests réguliers pour pouvoir travailler.
En France, confidence sur canapé. M6 va diffuser à partir de ce soir une nouvelle salve de l'émission de Karine Le Marchand, une ambition intime.
En cette période pré-présidentielle, la présentatrice a décidé d'interviewer en toute intimité 5 femmes politiques. Les téléspectateurs vont donc en apprendre un peu plus sur la vie d'Anne Hidalgo, Rachida Dati, Valérie Pécresse, Marlène Schiappa ou encore Marine Le Pen. Une émission au moment où deux études ont été publiées sur le vote des femmes, plus de la moitié du corps électoral, faut-il le rappeler. Mathieu Gallard, directeur de recherche chez Ipsos, relève les différences avec l'électorat masculin.
Dans le passé, quand les femmes ont eu le droit de vote en 1944 et ce jusqu'aux années 70, elles avaient tendance à voter plus à droite que les hommes. Ça s'est un petit peu résorbé dans les années 70-80 où elles sont mises à voter socialiste. Et aujourd'hui, la seule différence majeure, ça concerne la droite radicale, l'extrême droite. Mais même là, Marine Le Pen, au cours des années passé a réussi à faire en sorte que les femmes votent presque autant que les hommes pour l'extrême droite, alors qu'avant elles rejetaient beaucoup Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, dans nos intentions de vote, on constate que Marine Le Pen obtient à peu près autant de suffrages chez les hommes que chez les femmes. En revanche, c'est vrai que pour Éric Zemmour, il obtient, lui, nettement plus de suffrages chez les hommes que chez les femmes dans les sondages qu'on peut faire. Et c'est vraiment le candidat sur lequel il y a une différence en termes de genre qui est le plus marqué.
On vient parler d'Éric Zemmour, toujours pas candidat. Ça n'empêche pas la presse israélienne de s'intéresser à son cas.
Et cette presse rappelle que la France accueille la troisième communauté juive du monde en taille après les États-Unis et Israël. Le polémiste d'extrême droite, de confession juive, fait l'objet de plusieurs articles depuis 3 semaines. Le dernier en date très long dans le quotidien en langue anglaise, le Jerusalem Post, revue de presse de Frédéric Mettezo.
Éric Zemmour y est présenté comme un juif d'extrême droite qui défend les collaborateurs avec les nazis et endosse les théories conspirationnistes anti-musulmanes. Mardi soir, sur la chaîne israélienne en français I24, Zemmour expliquait qu'il n'est pas sioniste, mais membre du peuple français, mais qu'il défend le droit à exister d'Israël. Dans la presse en hébreu, le site du Yediot Aharonot parle d'un révisionniste qui a introduit l'affaire Dreyfus dans le débat électoral. À gauche, Haaretz parle d'un prophète du déclin obsédé par le grand remplacement qui n'a pas encore annoncé sa candidature mais a réussi à bousculer la politique française. À droite, Israël Ayom raconte ce juif originaire du Maghreb, populaire auprès de certains Français juifs, inquiet d'un nouvel antisémitisme nourri d'islamisme. Tous les journaux israéliens insistent sur les institutions juives françaises ouvertement anti-Zemmour et calcalistes. Le quotidien économique écrit « Un juif n'est pas nécessairement bon pour les juifs. » Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
On connaîtra demain les conclusions de la conférence des évêques de France pour lutter contre les abus sexuels et pour le processus de réparation envers les victimes.
Une assemblée plénière qui se poursuit à Lourdes. Les évêques ont déjà reconnu, c'était vendredi, la responsabilité institutionnelle de l'Église, le caractère systémique des violences sexuelles. Ils continuent donc de travailler encore aujourd'hui avant ce vote solennel de demain matin. François Touvet, évêque de Châlons-en-Champagne, président du Conseil pour la communication de la Conférence des évêques de France, explique comment se déroule le travail sur les décisions.
Il y a déjà le rapport de la commission indépendante que nous avons lu, que nous avons étudié et qui contient 45 recommandations. Chaque évêque a pu le travailler et des échanges ont lieu. Et nous sommes équipés comme vous avec des ordinateurs, etc. Et nous pouvons, par des échanges de messages, construire ensemble des décisions, échanger, partager nos idées. Nous l'avons fait aussi avec les personnes invitées. Il s'agit de rassembler toutes ces propositions et ensuite d'en débattre entre nous et avec les chrétiens qui nous accompagnent pour prendre quelques décisions majeures qui marqueront ce moment historique et ensuite des orientations qui nous lanceront dans des chantiers qui sont devant nous. Le travail est encore immense. Je ne sens pas de point de division. Je crois que vraiment nous faisons l'expérience d'une belle fraternité dans ce climat d'écoute, je vous le disais, et d'un élan commun.
François Touvet, président du Conseil pour la communication de la Conférence des évêques de France avec Delphine Evenou. Après 18 mois de fermeture pour cause de pandémie, les États-Unis rouvrent leurs frontières demain lundi. Mais pour les amateurs étrangers du marathon de New York, c'est trop tard une nouvelle fois. Ils ont dû renoncer à participer à cette course mythique qui va s'élancer ce dimanche dans les rues de la Grosse Pomme. Parmi eux, Michael, il comptait courir les 42 kilomètres. Il est resté à Paris. Anna Bonne-Mazoukarère l'a rencontré.
Et son dimanche matin a un goût amer, le marathon de New York, Michael en rêvait.
C'est surtout une grosse déception parce que pour tout coureur de marathon, New York c'est un peu la course forte, mais il y a plus de 50 000 coureurs, c'est l'ambiance américaine sur un marathon, c'est les gens qui sortent dans la ville avec des pancartes, avec des cris, c'est très très motivant.
Surtout que son dossard, condition sine qua non pour participer au marathon new-yorkais, était déjà pris.
On avait déjà un dossard pour l'année dernière, le marathon avait été annulé, mais cette fois-ci pour tout le monde, donc reporté à cette année. Ça devait être le 7 novembre et finalement l'ouverture des frontières se fera le lendemain du marathon.
Un mauvais calendrier qui va tout de même coûter $75 à Michael afin de se réinscrire pour l'an prochain, en plus des 335 déjà versés lors de son inscription. Une addition tout de même un peu salée pour au final devoir rester en France.
Vous attendez une année presque pour couvrir ce marathon et là avec les frontières qui n'ont pas été ouvertes cette année, ça a été un peu la douche froide en dernière minute.
Michael s'est donc réinscrit en espérant pouvoir participer à l'édition 2022.
Anna Bonne-Mazoukarère.
C'était le journal de Laurence Thomas, le temps de ce dimanche.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec un ciel souvent maussade aujourd'hui, Jean-Michel Gonaski.
Alors c'est vrai qu'il est couvert et faiblement pluvieux ce matin dans la moitié nord du pays. Il va progressivement glisser vers les Pyrénées, le Massif central et la haute vallée du Rhône, tandis qu'à l'arrière, le temps va s'éclaircir au nord de la Loire et au nord de la Seine. Autour de la Méditerranée, le vent sera très turbulent dans le domaine du Mistral, de la Tramontane et des rafales de nord-est entre la Corse et le continent, avec du soleil dans le golfe du Lion et sur les Alpes, mais un temps plus mitigé avec des averses et des orages ce matin sur la Corse et puis cet après-midi sur le littoral. De la côte d'Azur, avec des températures sensiblement stationnaires par rapport à hier, c'est-à-dire 10 à 15 sur la majorité des régions, jusqu'à 21 degrés sur le comté niçois et du côté d'Ajaccio.
Côte d'Azur, pas loin, effectivement. Merci Jean-Michel Gonaski.